Je vous salue, Marie.
Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Et la dernière, et donc la plus importante.
La plus courte.
Les plus courtes sont les meilleures, c'est vrai. C'est comme les plaisanteries, et finalement, peut-être que notre traite a été une longue plaisanterie. Sens du mot. Nous en étions arrivés au petit 3 en aval, dans l'exercice pardon, les phases du pardon, un grand A sans grand B, petit 3 en aval. En aval, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire après avoir posé l'acte de pardon ? L'acte de pardon, bon, je vous rappelle qu'il est surtout interne. Alors, est-ce qu'on va se réconcilier ou rompre ? Normalement, on va aller se réconcilier, on ne va pas rompre. Et pour vous montrer un petit peu la difficulté qui se présente, je vous propose d'évoquer ici Saint Jean de Chantal. Vous connaissez sans doute tous au moins un peu la figure de Saint Jean de Chantal. Elle n'arrivait pas à pardonner, elle. Elle est devenue sainte et elle n'arrivait pas à pardonner, justement. Elle n'arrivait pas à pardonner au cousin, qui était en même temps l'ami intime de son mari, Louis d'Anzely, seigneur de Chazelle, qui tue son mari à la chasse à l'automne 1601. C'est là que sainte Jeanne de Chantal s'est retrouvée veuve, c'est comme ça qu'elle a pu fonder l'ordre de la Visitation. Il y a des choses dans l'existence, on ne soupçonne pas que certains malheurs rendent possibles certains autres. Elle ne se sentait pas le courage de revoir celui qui avait tué son mari. Voir que des saints ont eu de si grosses difficultés. Pas le courage de le revoir, ne serait-ce que de le revoir. Alors qu'au contraire, son mari, lui, avait pardonné aussitôt. Parce que quand il a été tué par un bal, il n'est pas tout de suite mort. Il a eu le temps de pardonner. Et non seulement il a pardonné, mais il a fait inscrire son pardon dans un grand livre qui était dans l'église, qu'il a voulu mettre dans l'église solennellement pour que ce pardon soit sanctionné en quelque sorte. Son mari, lui, a pardonné aussitôt, et Sainte Jeanne de Chantal, qui est devenue sainte, n'arrivait pas à pardonner. Et elle avait des raisons d'être éprouvée. Elle-même, orpheline de mère à 18 mois, elle a perdu 2 enfants en bas âge, âgée de 29 ans, 4 enfants à éduquer, dont Charlotte, accouchée de 15 jours. Elle subit pendant 7 ans et demi un directeur spirituel chagrin et sévère, qui complique ses prières et mortifications. Elle vit pendant 9 ans chez son beau-père. On met toujours tout sur le dos de la belle-mère. Pas pourquoi aussi. Chez son beau-père, près d'Autun, qui se trouve sous la coupe d'une servante maîtresse, par laquelle, du coup, Saint Jean de Chantal a dû exercer une patience héroïque. Par la suite, rencontrée en 1604, Saint François de Sales, elle n'aura Saint François de Sales que pendant 12 ans pour guider la fondation de la Visitation. Sales meurt en 1622, et elle va perdre successivement sa fille Charlotte, 1610, sa fille Marie-Aimée, seulement âgée de 19 ans, après un acte-tête, et elle-même, déjà veuve depuis quelques mois du frère de Saint-François. Donc 10 ans plus tard, en 1627, elle perd son fils aîné, le père de la future marquise de Sévigné, et lors d'un combat avec les Anglais à l'île de... Et l'avalanche de catastrophes dans la résistance. Et voici ce que va lui conseiller Saint-François de Sales. Donc ça, c'est... Vous me demandiez comme je voulais que vous fissiez. Il n'est pas besoin que vous en recherchiez ni le jour. Il n'est pas besoin que vous en recherchiez ni le jour ni les occasions. Mais s'il se présente, je veux que vous y portiez votre cœur doux, gracieux et compatissant. Et donc, il n'impose pas un fardeau qui est insupportable. Pas besoin d'aller le rechercher pour l'embrasser comme ça. Je sais que sans doute il se remuera et renversera, que votre sang bouillonnera. Mais qu'est-ce là? Ainsi fit bien celui de notre cher sauveur, Lazare mort. Et mis en esprit, il s'est mis à pleurer. Avec l'agonie, je crois que c'est le seul endroit où on dit que Jésus a pleuré. Et on sait également que par saint Jean, que Jésus a frémi en son esprit, annonce. Oui, mais que dit l'Écriture, continue saint François de Sales. Qu'à l'un et l'autre, il leva les yeux au ciel. Et c'est cela, ma fille. Dieu vous fait voir en ses émotions combien nous sommes de chair, d'os et d'esprit. Je me suis assez expliqué. Je n'entends pas que vous recherchiez la rencontre de ce pauvre homme, mais que vous soyez condescendante à ceux qui la vous voudront procurer. Adieu, ma fille, demeurez en paix et tenez-vous sur le bout de vos pieds et vous étendez fort du côté du ciel. Ça, c'est du saint François de Sales, tout craché. Et le père Ravier raconte la suite. L'occasion se présenta en effet. La rencontre fut brève. Et pourtant, elle coûta bien des larmes à la veuve de Chantal. Et comme Jeanne ne faisait rien à demi-cœur, elle voulut bien nommer un des enfants de Monsieur Danzely, dans Leuzy, pardon, au baptême. C'est-à-dire devenir la marraine d'un enfant du meurtrier. Et c'est en s'occupant de ces pauvres petits qui, sans comprendre son chagrin, redoublaient leurs caresses, qu'elle recouvra le courage de vivre. Alors un dernier point, toujours sur en aval, peut retenir, peut aussi, après avoir pardonné, ayant pardonné, fêter, célébrer cet événement qu'on a réussi à pardonner, et ainsi entretenir l'estime légitime de soi. Ce n'est pas une chose mauvaise, l'orgueil. On a réussi ce pardon, on n'est pas oublié ça comme ça, c'est un message. Si à cela, devant Dieu, avec la sainteté, célébrer ce pardon pour nourrir l'estime de soi, sans se rappeler que c'est la grâce de Dieu qui nous a permis d'y arriver. C'est une manière, non seulement de bien vivre les suites du pardon, mais de préparer d'éventuels autres pardons que nous devrions donner. Donner un, mais vous savez, il arrive toujours des événements. Bien vécu un pardon précédent, à bien vivre d'autres éventuels. Enfin, chapitre 3, les effets très puissants du pardon. Conta, pardonner, c'est noble et efficace. Je témoigne que le pardon est l'acte le plus difficile à poser. L'acte le plus difficile à poser. Et il ajoute, le plus digne de l'homme. Puis, mon plus beau combat. Rappelez-vous, c'est un champion de boxe qui parle. L'amour, c'est mon point, P-O-I-N-G. L'amour, c'est mon point final. L'amour plus fort que la haine, c'est laisse tomber. Le pardon procure une transformation intérieure radicale. Or, corporellement, petit homme, Pascal Hyde, vous connaissez tous Pascal Hyde, puisque c'est un médecin. Pascal Hyde, donc, est toujours très au courant des répercussions. Il donne deux exemples. Il montre que, par le pardon, on peut n'avoir plus d'insomnie, plus d'ulcères à l'estomac. Et spirituellement, ça c'est la transformation encore plus profonde qu'apporte le pardon. Comment il s'exprime? Toujours pas. Quel est donc le grand dilemme de nos vies? Le dilemme, c'est-à-dire l'alternative. Quel est donc le grand dilemme de nos vies? Le pardon ou le chardon? Et le chardon, il y a des épines. Pardon ou le chardon? Être hérissé d'épines ou épicé d'humilité. Être habité d'amour ou habillé de haine. Être incomestible, sauf aux ânes, ou être combustible pour les ânes. Me avec un M. Là, c'est sauf aux ânes, avec un N comme Nicole. Bref, la basse vengeance ne rend pas heureux. Mais le pardon renouvelle l'autre et nous renouvelle nous-mêmes, à nos yeux et aux yeux de Dieu. Pensez les avantages pour autrui. Premier point, petit a, pardonner, c'est dire à autrui, tu es plus que ta faute ou même que ton crime. Pardonner, c'est sortir du cercle infernal de la culpabilité ou de la vengeance. Et comment c'est radical que l'existence, mais aussi se diffuse jusque dans tout notre agir. Petit b, la charité est contagieuse. Contagieux. On peut évoquer ici la noble irlandaise. L'avion est parti. Rose. Comme les Irlandais sont souvent comme ça. Christina Noble, qui est une Irlandaise, si mes souvenirs sont bons, une Irlandaise, qui est née dans une famille très défavorisée. Le père est, du coup, il se voit, il rentre à lui retire la mère même. Et cette Christina, qui avait une voix sur le mur de la maison avec des amis, en fait, elle est au moment dans le film où on raconte son histoire, elle monte la grille, et à ce moment-là, il y a trois mademoiselles, on ne peut pas vous aider. Emmenée de force dans la voiture, réussir à se marier, elle découvre que son mari est seul. Là, elle ne va pas essayer de guérir elle-même de tout le mal qu'elle a subi, encore plus de bien. Voilà, je voudrais m'occuper. Elle a réussi à s'imposer à tout le monde, c'est incroyable. Elle a fondé sa maison et rayonné ainsi la charité. Mère d'une famille innombrable, elle qui est... Vous voyez comment charité est contagieuse. Elle a, dans sa sensibilité, elle ne pouvait pas oublier toutes les offenses. Mais, et elle a, du coup, diffusé cette charité qui était en elle. Un genre de Dieu, seul converti au XVIe siècle, plusieurs fois par jour, une femme qui l'a fait sortir d'une maison de tolérance vient le trouver à chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose. Tiens. Il fait de son mieux pour la satisfaire. Chère madame, mais que puis-je faire pour vous ? Une fois, elle trouve Saint Jean de Dieu enroulé dans une couverture. Pourquoi ? Parce qu'il avait donné ses propres vêtements aux pauvres. Et il lui dit, écoutez, chère madame, revenez un autre jour. Là, si je retire la couverture, madame, il n'y a pas grand-chose. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle l'injurie. Elle le traite de saint hypocrite. Jean lui donne de l'argent. Allez le dire à haute voix sur la place. Allez dire à tout le monde sur la place que je suis un hypocrite. Tenez, je vous paye. La femme continue ses injures. Et quoi, avec un tel humour, il me donne de l'argent pour que j'aille dire qu'il est un... Si tu veux, continue. Et saint Jean de Dieu, face à ces injures qui continuent, il dit, tôt ou tard, je dois te pardonner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en définitive ? Comment est-ce que ça s'est terminé ? Le jour de ses obsèques, saint Jean de Dieu, quand même, le jour de ses obsèques, c'est qu'ils furent tellement grandioses que les rues ne pouvaient contenir la foule qui commençait à détruire le cercueil pour avoir des reliques. Eh bien, la femme en question est arrivée, elle a suivi le cortège, se reprochant sa cruauté et en chantant les louanges du saint. Elle avait été convertie enfin. Attendez l'avenir. Celui qui pardonne mérite d'être pardonné. On obtient quelque chose quand on pardonne. Vous trouvez ça dans l'Ecclésiastique. Alors pour les gens chics, ça s'appelle Siracide. 28, versets 1 et 2. L'Ecclésiastique ou Siracide. Siracide, c'est Sirac le sage en fait. Non, un i, on écrit avec un i en général, mais à la fin, on écrit parfois avec ch. Ou... Voici ce que disent ces deux versets de la Bible, donc c'est, je vous rappelle que c'est le Saint-Esprit, hein, avec le sage, plusieurs hagiographes, plusieurs écrits sacrés qui ont été inscrits. Toujours est-il, voici ce que disent ces deux versets. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur, qui tient un compte rigoureux des péchés. Et ensuite, c'est la Bible, hein, c'est le Saint-Esprit. C'est vrai que c'est l'Ancien Testament. Et verset suivant, vous allez voir, verset suivant, parce que justement, c'est quand vous lisez les livres de l'Ancien Testament, il faut faire attention qu'il faut bien compléter. Verset avec l'autre, un passage avec l'autre. Verset suivant, pardonne à ton prochain ses torts, alors à ta prière, tes péchés te seront remis. Celui qui pardonne mérite d'être pardonné. Si tu pardonnes, alors à toi, tes péchés seront remis. Il y aura en toi grâce qui descendra. Puis, le pardon peut obtenir de grandes grâces. Nous retrouvons Sainte Jeanne de Chantal, failli suivre son mari dans la tombe, raconte. Avec tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, failli suivre son mari dans la tombe. Elle passait les nuits à genoux à prier et à pleurer, de sorte qu'on fut obligé de veiller pour la faire au moins tenir au lit. Son oraison, jusque-là fervente, devenait plus élevée. Elle éprouvait une union avec Dieu dont l'intimité l'étonnait. À de certains moments, elle se sentait emportée dans des régions temporaires qu'elle ne soupçonnait pas. Même si, bien sûr, ses faveurs divines passaient quant à la suavité, mais des tentations demeuraient. Vous voyez comment le pardon qu'elle a effectué, même si elle a eu du mal, néanmoins elle avait quand même pardonné substantiellement. Bien, ce pardon lui a obtenu une progression dans sa vie d'oraison. Jusque-là, son oraison, fervente mais très simple, devenait plus élevée. Et nous retrouvons ici de nouveau Saint Jean Galbert, qui a pardonné, rappelez-vous, au Xe siècle, dans la région de le meurtrier s'était mis à genoux, les bras en croix. Saint Jean Galbert, après avoir pardonné, il continue sa route et il trouve une église. Il entre dans l'église, prie devant le crucifix qui se trouve dans cette église, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a vu ? Le pardon obtient de grandes grâces. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il voit le Christ qui penche la tête, comme pour le remercier de s'être montré son disciple. Alors, étonné et de plus en plus ému de ce spectacle, Saint Jean Galbert se prend à rechercher comment il pourra davantage plaire à Dieu. Donc, ce pardon donné par Saint Jean Galbert va être l'occasion de sa vocation monastique. Il va se faire moine. Et ensuite, il va fonder une abbaye. Non seulement il va se faire moine, mais il va fonder une abbaye en Italie, à Vallombreuse, un perdu de montagne abrité sous de grands arbres. Abbaye qui sera la tête de toute une congrégation bénédictine. Un pardon donné a engendré une poule de grâce pour des quantités de personnes. Pendant plein en Italie, l'abbaye de Vallombreuse existe toujours. Grand œuvre, nous montons encore un peu plus. Non seulement nous obtenons de grandes grâces par le pardon, mais nous sommes en quelque façon assimilés à Dieu. Nous devenons plus profondément semblables à Dieu. Dieu, il n'y a rien de plus haut, car c'est le propre d'un supérieur de diffuser, de donner, de soulager. Nous, certes, il y a quelque chose de plus haut, mais pas pour Dieu. Parce que Dieu, il peut pas avoir besoin de quelque chose. Donc, lorsqu'il fait quelque chose, c'est de la diffusion en tant que supérieur de quelque chose qu'il a. Nous, il y a quelque chose, car la charité nous unit directement à Dieu, alors que la miséricorde n'a pas Dieu lui-même pour objet spécial, mais le soulagement de la misère d'autrui par notre compassion. Donc, lorsque nous sommes miséricordieux et que nous pardonnons, ressemblons au papa de l'enfant prodigue, pasteur Jésus, qui a regardé le plan de l'évangélisation de la pécheresse, entre avant le grand voyage qui traverse tout l'évangile. Du pèlerinage terrestre, de ce voyage est en quelque sorte inauguré par pardon de la pécheresse. Alors que dans l'évangile selon saint Jean, le pardon, l'onction de la pécheresse vient tout à fait à la fin, chez saint Luc, c'est presque au début. Comme si ce pardon donné à la pécheresse envahissait tout l'évangile. Donc, lorsque nous pardonnons, nous ressemblons à Jésus qui pardonne. Eh bien, chapitre 4, ça va être très court, une exhortation finale, pour que nous n'hésitions pas à pardonner généreusement, comme Dieu qui pardonne tout, spécialement aux confesseurs. Nous allons nous confesser, ce que nous attendons, c'est que pardonne tout, absolument tout. Pardonnons généreusement, comme le Christ qui en a fait une condition même de notre propre pardon. Pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Alors, nos amis seront un lieu d'espérance. Là, on a vraiment des raisons d'être dans l'espérance. C'est pas une espérance naïve, vous savez. Ce n'est pas de la naïveté un peu bébête ou mièvre. Ah oui, si on pardonne effectivement, si on vit du pardon concrètement, mais nos familles seront des écoles de conversion, de pardon. Si nous instaurons une habitude fréquente de pardonner en famille, contagion que j'ai évoqué, 40 ici, les apôtres étaient 12. Non. Parce qu'en général, quand on dit « je demande pardon », c'est parce que je suis coupable. Oui.
Et où la justice, comme...
Donc la miséricorde n'est pas l'ennemi de la justice. La miséricorde, elle a le champ libre et inférieurement. Intérieurement, c'est plus compliqué. Intérieurement, effectivement, il faut faire intervenir la prudence pour savoir dans quel cas il faut punir ou ne pas punir. Même dans le cas où on va punir, on parle dans quel cas faut-il punir, c'est que la punition va être médicinale dans la société. Il y aura un don qui est donné, mais la peine n'est pas l'ennemi du pardon, elle va l'accompagner. C'est que c'est par le péché, lui pardonner intérieurement, mais estimer qu'il fallait quand même qu'il y ait une punition extérieure qui soit donnée, être gracié la moindre personne qui prenait un fusil contre un. En tête, c'est dans l'encyclique divine et miséricordiaire peut-être.
Oui.
Ça doit, je pense, dans cette encyclique-là. Pèse et miséricordia, donc c'est précisément sur Dieu riche en miséricorde. Et dedans, de fait, Jean-Paul II rappelle la place de la justice. À ce que peut-être quelqu'un, Jean-Paul II ne parle pas que de la miséricorde, mais il parle aussi de la place de la justice, de Père. De la même manière que Saint Paul, quand il écrit « la charité », lui ne ressent pas de temps en temps et de punir, puisque on le voit punir régulièrement. Et les épîtres de saint Paul, je me réjouis de ce que je vous ai contristé pour vous amener à la pénitence. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas pardonné intérieurement, mais il faut faire comprendre. C'est assez difficile à voir comment en Dieu se concilient les exigences de la justice et de la miséricorde. On peut expliquer la chose de la façon suivante, c'est un peu comme le fameux dominicain Réginald Garrigou-Lagrange, c'est un même bien qui attire et qui diffuse. Dieu est bon, et cette bonté fait comprendre qu'elle est attirante, qu'elle est touchante en certains cas, tant elle a une certaine rigueur. Et donc, deux aspects finalement de la bonté. Que quand on est en face d'un malade, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu pathologique dans ce que vous dites. Quand on est en face d'un malade, les règles ordinaires, pas agir avec un malade comme on agit avec une personne qui n'est pas malade. À ce moment-là, éventuellement, il faudra pas trop faire fortement et puis faire comme si elle avait raison. Il y a quelqu'un, un moine au monastère qui conseillait quand on reçoit des appels téléphoniques de gens embêtants, et bien de dire oui à tout. Vous avez quelqu'un qui est un petit peu... Ah, on va lui dire oui, mais ça veut dire que comme lui, il est un peu demeuré, donc il y a un sens dans lequel ce qu'il dit comporter de façon différente de ce qu'on ferait vis-à-vis de quelqu'un qui est en bonne santé. Donc dans ce cas-là, je pense qu'il faut penser à Jésus, dans sa patrie. Saint Jean de Dieu, ici, là, il s'est fait injurier. Et la réponse qu'il a donnée, ça a été de faire encore plus de bien. Ça fait quand même longtemps jusqu'à sa mort. Il a vu le résultat seulement après sa mort. Enfin, il a vu Dieu du ciel après sa mort. Non, quand on est en présence de quelqu'un comme ça, on n'est pas obligé non plus de rechercher son acte et de le voir souvent. C'est vrai que même dans les familles, évidemment, dans certains cas, c'est pas possible de ne pas les voir souvent. Mais même les familles, on n'est pas non plus obligé de lier les contacts si c'est pas manquer de charité. C'est au contraire permettre à elle-même d'éviter de nuire. Pas obligé absolument de voir même les gens de la famille. Être chrétien, ça ne veut pas dire être charitable non plus. C'est bon, on ne commence pas par la lettre C. Mais ou de plus sur l'évangile de Saint-Jean. Ça, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui se plaint que ça m'en soit court. On a le droit de... Pas dans l'évangile de... Ah oui. Oui, il a craché, oui. Il a fait quelque chose, oui. Mais ça, je crois qu'il y avait une bonne partie d'exigences des pharisiens et qui s'étaient accumulées en plus de ce qu'il y avait dans la loi. Il y a une question, non ? Ah non. Mais c'est assez impressionnant parce que ça se termine sur en fait sa splendeur. Il faut voir la structure de l'évangile. C'est au milieu qu'il y a le mot Christ qui rayonne, qui de quelle manière il rayonne, parce que justement l'imitation du Christ, c'est comme l'annonce de ce qui va se passer, une répétition générale de ce qui va se passer avec la préfiguration de la passion du Christ. Aussi, on aurait peut-être aussi pu. Parents disent, écoutez-le, il défile. Écoutez-le, c'est lui qui est majeur. C'est en tant que parent contemplatif, vous défiliez. Là, il se comporte de façon un peu peur. Et Saint Jean, il dit même, lui, qu'il dit cela par dire cela par peur des gens. Ah oui. Dire que les guéris, donc, il est l'exemple de celui qui voit, qui s'ouvre à la lumière, mais progressivement. Quand son ouverture se réalise lorsqu'il est exclu, voit de manière dans la vie d'oraison, se réalise en même temps par la purification de l'aveugle, ils doivent devenir comme leurs fils, finalement, comme leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont porter un habit, qu'ils vont avoir un père abbé ou une mère abbesse ou une mère prieure. Spirituellement, vous êtes appelés. Spirituellement appelés à ce que vivent vos enfants. Dernier épisode, c'est des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent et lui dire « Sommes-nous des aveugles, nous aussi ?» Et les juifs qui comprennent que en fait, tout ce qu'a fait Jésus, c'était pas du cinéma, mais c'était pas simplement des gestes pour donner une leçon très profonde, spirituelle. Et Jésus leur répondit, si vous étiez des aveugles, vous seriez sans péché. Et vous dites, nous voyons, votre péché demeure. C'est-à-dire que, pointe en direction de la vérité, mais en fait, quand Jésus dit, je suis venu en ce monde pour que ceux qui voient, pour que voient ceux qui ne voient pas, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc cette phrase peut sembler choquante. Et en fait, elle s'explique quand on regarde tout le contexte de la Bible. Il y a une phrase à peu près semblable dans l'Évangile selon saint Matthieu à propos des paraboles. On a l'impression que Jésus emploie des paraboles pour rendre aveugle. Et en fait, c'est une des explications que j'ai trouvées, que donnent les pères Lagrange et Lèvre. Il s'agirait ici de quelque chose qu'on trouve dans les prophètes. Dieu, qui par la bouche des prophètes, se plaint de l'ingratitude de son peuple à la façon d'un délaissé. Donc, lorsqu'il parle Dieu ainsi de gens qui sont aveugles, il emploie le style, le langage littéraire qu'on emploie lorsqu'on pousse un cri d'amour, on dit oh, « Mais regarde un peu ce que tu as fait, etc. » Et donc, on ajoute ce genre de paroles. Mais en fait, il ne s'agit pas de chercher le mal, de vouloir le mal pour la personne, mais il s'agit d'un cri d'amour. Et donc, ce qu'il faut retenir, finalement, c'est que cette parole, et si on comprend bien le genre littéraire, est un cri d'amour blessé de Dieu face à la cécité du pécheur. Donc, Dieu ne cherche pas à nous rendre aveugles. C'est que ce qu'il va faire va parfois, malgré son intention à lui, nous rendre aveugles parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisamment ouverts à sa grâce. C'est ça la signification. J'ai été très édifié par vous tous, donc je repars plutôt avec des leçons.
Elle a visité très court le service.
Il y a quelque chose qui m'a été donné. Je suis dans ce problème. Premier exemple.